c'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'aberration de la privatisation des semences à l'échelle mondiale qui empêche les paysans d'échanger librement leurs graines entre eux ou de les reproduire d'une année sur l'autre. Il faut racheter chaque année des graines à prix d'or fabriquées par des semenciers qui vous les vendent en kit avec les engrais et les produits phytosanitaires produits par les mêmes groupes. Cette marchandisation du vivant se fait au détriment de l'autonomie financière du paysan et de la biodiversité puisque l'on assiste à une uniformisation des variétés. C'est pour dénoncer cette situation que Jonathan Attias et Alexandre Lombroso se sont lancés dans une bataille citoyenne à l'échelle française, un parcours du combattant raconté dans leur documentaire Des clics de conscience qui sort sur les écrans cette semaine. Ils sont nos invités et Aurélien Vernet, collaborateur parlementaire du sénateur du Morbihan Joël Labbé, nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez joué un rôle important, on va en parler aussi dans cette histoire que vous allez nous raconter. Alors on va essayer de prendre les choses dans l'ordre par rapport à votre combat. Jonathan Attias et Alexandre Lombroso, tout commence par une pétition qui s'appelle « Yes We Grain ». Alors qui commence, Alexandre ?
Le 4 juin 2015, on a cette fameuse idée de lancer cette pétition qui est parrainée par Philippe de Brosse, donc qui avait la ferme de Sainte-Marthe, pour aller plus loin et donc demander à ce que les agriculteurs aussi puissent avoir ce droit d'échange des semences du domaine public.
Donc cette pétition, vous la mettez en ligne ?
Cette pétition, on la met en ligne et en l'espace de 10 jours, elle récolte 20 000 signatures. Et là, on est bloqué. On se dit, il faut aller au bout. On peut pas. On a ouvert la boîte de Pandore. On doit amener cette pétition le plus loin possible.
Il y avait quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait décrit dans cette pétition ?
Dans cette pétition, il y avait quelque chose d'assez vague parce que nous, ce qui nous choquait, c'était effectivement ce catalogue qui amène à une sélection inhumaine, on va dire, ou pas naturelle des graines. Et donc, on avait cette vision abstraite. De se dire, il faut que les agriculteurs aussi puissent avoir ce droit. Mais on n'était pas encore, on n'avait pas encore mis les yeux dans la loi, dans les règles, et donc on ne savait pas exactement encore comment formuler cette demande.
Et donc à partir de là, vous avez fait cette pétition, et l'objectif c'était quoi au départ ?
L'objectif de cette pétition, c'était, c'était cet outil-là qu'on voulait voir, on voulait découvrir cet outil-là. On a commencé à filmer dès le début, on a rencontré plein de lanceurs d'alerte pour savoir à quoi sert une pétition. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'une pétition, c'est un superbe outil de persuasion massive, mais ça n'a pas de loi qui, il n'y a pas de loi qui encadre en fait, il n'y a pas de valeur juridique. Donc il n'y a rien qui amène automatiquement à ce qu'une pétition soit prise en compte par des autorités.
Combien de signatures récoltées, Jonathan ?
Alors, on est arrivé à 75 000, ce qui est quand même pas mal, finalement, parce que c'est un sujet relativement anonyme. Donc, on en était ravis et on s'est aperçu qu'en fait, c'est une cause qui nous dépassait complètement, qui était bien connue du grand public, mais qui avait besoin de ce lobby de bien commun. C'est comme ça qu'on appelle ça, parce que nous, on ne représente pas une association, pour permettre de changer une loi qui existait depuis les années 60 et qui était d'une grande absurdité.
Donc, fort de cette pétition, vous allez rencontrer Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, pour qu'il vous donne quelques pistes d'action. Et voilà ce qu'il vous dit.
Les mouvements citoyens sont absolument nécessaires pour faire bouger le monde politique et l'establishment. On en a besoin. Nous, les élus très minoritaires, on en est tout à fait conscients. Donc on compte beaucoup, beaucoup sur la mobilisation citoyenne et sur la reconnexion entre les politiques, le politique et la société civile. Parce que moi, je défends la politique parce que j'y suis dans la politique. Et le tous pourri, ça m'énerve. Parce qu'on n'est pas tous pourris. Par contre, on a besoin de gens mobilisés, motivés, qui s'intéressent à ce que l'on fait et qui demandent à être associés à cela.
Donc voilà, on l'a lancé il y a 3 semaines. Maintenant, on en a 32 000 signataires, mais on ne sait pas quoi faire finalement de ces signatures-là. À qui on va pouvoir les donner pour qu'elles puissent être portées à l'Assemblée ?
Les adresser au ministre, même si il n'est pas tenu d'en tenir compte. Les adresser au ministre, c'est important. Les adresser aux parlementaires. Et il y a un certain nombre d'amendements à la loi biodiversité qu'on va introduire, essayer de défendre et faire adopter, justement prenant en compte toute la variété des semences.
Il sera possible d'ailleurs de vous donner notre pétition pour l'appuyer
bien sûr,
à ce moment-là ?
Bien sûr, je vous le dis et je m'engage à le faire. Je vais parler de votre initiative en séance, à la tribune quand j'interviendrai. Et notre rôle, c'est d'être le relais, donc je vais m'appuyer dessus avec force.
Merci beaucoup.
Et voilà Aurélien Vernet, comment en tant que collaborateur parlementaire vous vous retrouvez dans cette aventure ?
C'est un peu ce qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire que le collaborateur parlementaire, bon, même s'il y a eu dernièrement une certaine affaire Fillon qui nous a obligés à un peu mieux expliquer notre travail, en fait on est la courroie de transmission et la petite main derrière les parlementaires pour les aider à accomplir ce qu'ils souhaitent politiquement. Et donc j'ai travaillé avec Alexandre et John à une meilleure construction, une meilleure compréhension de comment on pouvait traduire leur pétition sous forme d'amendement à la loi biodiversité.
Oui, parce qu'en fait, cette pétition, donc là, Joël Labbé vous dit de la distribuer aux parlementaires et au ministre de l'Agriculture, qui à l'époque était Stéphane Le Foll. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
On a cherché à la donner réellement au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en pensant que ça allait être la fin de ce combat, que de fait, il allait s'en saisir.
Oui, citoyen naïf, 75 000 signatures, exactement. Quand même, ça devrait interpeller un ministre.
Tout à fait. Et... sauf qu'il n'a jamais voulu nous recevoir. Et en fait, on a rencontré Joël au tout début, peu de temps après avoir émis la pétition. Et Joël nous dit directement, et Aurélien aussi, il va y avoir une loi sur la biodiversité après que n'ait lieu la COP21. On va tout faire pour que votre pétition s'intègre dans cette loi. Et très vite, en fait, on a inversé notre dynamique et on a compris que la pétition n'était qu'un support et que le vrai travail allait ensuite démarrer.
Voilà, donc vous avez ravalé quelque part votre déception et vous avez adopté une nouvelle stratégie sur une idée d'un député socialiste, cette fois Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, qui avait donc eu cette idée de l'amendement citoyen. Explication.
Depuis toujours, en fait, le droit d'amendement a été considéré comme un privilège des parlementaires. Et donc, nous sommes les seuls à pouvoir déposer un amendement. La vérité, c'est que tous les grands groupes de pression, positifs ou négatifs, ça peut être les ONG, ça peut être un grand groupe industriel, viennent voir les parlementaires et offrent leur expertise, leur service pour pousser dans tel ou tel sens. Et moi, ce que je crois, c'est que les bonnes idées, elles ne sont pas l'exclusivité des parlementaires, ni même des groupes de pression, les bonnes idées, elles peuvent venir de n'importe qui. Donc un amendement citoyen, ça veut dire tout simplement permettre à tout le monde d'avoir une bonne idée, de la mettre en ligne sur le site de l'Assemblée, à la condition qu'il ait réuni, 10 000, 20 000 co-signataires, eh bien cet amendement puisse être débattu comme un amendement parlementaire classique.
C'est l'Assemblée qui va donner les thématiques en fonction de l'ordre du jour et à partir de là, de ce cadre-là, les gens vont pouvoir suggérer ce qu'ils veulent, mais autour de ce sujet-là. Ils ne peuvent pas le faire de manière libre.
Ils ne dictent pas le sujet, le thème est donné par le gouvernement. En revanche, après, chacun peut s'exprimer sur le thème.
Voilà, et c'est à partir de là que vous décidez d'essayer donc de déposer cet amendement citoyen à la loi sur la biodiversité qui était alors en débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Aurélien Vernet, en tant que collaborateur parlementaire, vous connaissez bien le fonctionnement de ces institutions. C'est une première, cette démarche ?
Je ne pense pas que ce soit tout à fait une première. Il y a beaucoup de citoyens qui nous écrivent, qui soit individuellement, soit qui se sont groupés sous forme d'associations. Alors il y a les très grandes associations qu'on connaît, hein, Greenpeace, France Nature Environnement, FNH, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des petites associations locales qui ont des sujets parfois très spécifiques. Alors à titre d'exemple, quand on a lancé la concertation citoyenne autour de l'ensemble de la loi biodiversité, hein, il y avait évidemment les semences, mais il y a eu d'autres sujets qui sont venus, forcément. Et donc il y avait une asso qui s'appelle dans le Morbihan, il me semble, Fer à Cheval, et qui proposait de réhabiliter la traction animale dans le travail du sol, mais aussi dans les villages, pour le ramassage scolaire, pour tout un tas de choses. Et donc, c'est aussi un amendement qu'on a déposé à ce moment-là, enfin que Joël Labbé a déposé avec les écologistes à l'époque. Et la ministre, Ségolène Royal, en séance, a expliqué que effectivement, c'était intéressant de pouvoir utiliser la traction animale, mais qu'on n'allait peut-être pas le rentrer dans la loi.
Alors, c'est très compliqué de déposer un amendement. Vous avez eu de nombreux obstacles. Tout d'abord, il faut le verbaliser. Parce qu'en fait, c'est un langage très, très particulier. Alors pour ça, vous êtes allé voir une avocate du droit de l'environnement qui vous a un peu décortiqué le jargon législatif, c'est ça, Jonathan ?
Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on n'est pas des juristes avec Alex. Donc au moment où on comprend les enjeux, ensuite, pour s'intégrer dans la loi, il faut se familiariser avec tout un vocabulaire. Et on a eu la chance d'avoir des alliés exceptionnels. Blanche Magaré-Nosrey en fait partie, Aurélien aussi et Joël. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a eu besoin les uns des autres. C'est-à-dire que nous, on arrivait avec une idée qu'on avait fait avancer au travers de la pétition. Et à un moment donné, il s'agissait de l'inscrire dans la loi, donc de comprendre à quelle place il pouvait rentrer et comment le formuler. Et c'est vrai que Blanche a été d'un très grand soutien, elle qui milite au niveau européen pour libérer les semences, et Aurélien aussi nous a beaucoup aidé lorsqu'il a fallu écrire cet amendement. Donc sans eux, sans ces soutiens de la société civile, on n'aurait pas pu écrire nous-mêmes ces amendements qui permettent de changer la loi sur les semences.
Et puis vous êtes appuyé sur les nouveaux outils hein, pour avoir une puissance populaire avec vous. C'est donc la plateforme de démocratie participative Parlement et citoyens. Alexandre, qu'est-ce que vous avez fait avec cette plateforme?
D'abord, on a mobilisé des soutiens avec la pétition. Ensuite, on a eu la question de la formulation de notre revendication en amendement. Et là, on utilise bien sûr la plateforme Parlement et citoyens qui a beaucoup de crédit auprès des parlementaires pour en fait aller chercher une majorité. Parce que c'était ça la dernière étape.
Une majorité de quoi ?
Une majorité de parlementaires qui reprennent notre amendement, qui votent favorablement ou le déposent ou votent favorablement. Et en fait, cette plateforme nous permettait de gagner en crédit auprès de ces parlementaires et d'expliquer que maintenant l'amendement est écrit, vous n'avez plus qu'à le reprendre, le déposer et voter favorablement et on réussira à changer la loi.
Et le combat est loin d'être gagné, on en parle juste après une pause en compagnie de Abou Diarra. C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'enjeu de la libéralisation des semences paysannes pour permettre aux agriculteurs d'échanger et de reproduire librement leurs semences indépendamment des grands groupes industriels qui dominent le marché avec l'appui de la loi. Et c'est justement pour modifier cette loi que Jonathan Attias et Alexandre Lombroso ont tenté de déposer deux amendements citoyens. C'était le 13 janvier 2016 au moment du vote au Sénat sur la loi sur la biodiversité. Alors le contenu des amendements, je vais vous demander ça, mais en langage très simple, hein, Jonathan, article 4, terre.
Alors, en fait, les deux amendements sont les suivants. Le premier, il demandait à ce que, tout simplement, les agriculteurs puissent s'échanger librement les semences, chose qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'alors. Le deuxième amendement, il demandait à ce que les semences soient naturellement reproductibles. En d'autres termes, qu'on supprime ce qu'on appelle les hybrides F1.
Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein ?
Les hybrides F1, c'est un peu technique, mais on va pouvoir en parler. C'est en fait une technique d'hybridation qui fait que lorsqu'on plante une graine une première année, on va avoir un très bon rendement. Mais au moment de récolter les graines issues de notre récolte, si on veut replanter ces graines-là, elles vont ensuite dégénérer, voire ne rien donner.
L'objectif, on parle d'une certaine stérilité. Évidemment qu'on en rachète d'autres.
Exactement, pour que les agriculteurs repassent un peu au tiroir caisse et rachètent auprès des semenciers. Donc l'enjeu de cet amendement, qui était un enjeu très fort en fait, puisqu'il changeait l'économie des semences, c'était de dire désormais, on va revenir à un critère de stabilité naturelle, c'est-à-dire qu'une semence doit être reproductible et ainsi contrecarrer ce business qui est fait autour de l'hybridation des graines que l'on connaît même en bio.
Alors nous sommes le 21 janvier 2016, c'est l'heure du vote au Sénat, donc le moment de vérité pour savoir si vos amendements passent ou pas. Dans l'ordre, vous entendez le sénateur du Morbihan Joël Lamé, Jérôme Mignon, le rapporteur de la commission pour la loi sur la biodiversité au Sénat, et Ségolène Royal, ministre de l'écologie.
J'ai évoqué tout à l'heure le passage sur la plateforme Parlement et citoyens que je tiens à saluer. Madame la ministre, je tiens à vous saluer d'avoir joué le jeu, ce qui n'était pas si simple, faire en sorte que le texte soit soumis à l'avis citoyen, avec des avis sur chacun des articles, avec des propositions. Le nombre qui dépasse 9300 contributions démontre combien nos concitoyens s'intéressent à ce que nous faisons. Il y a une nécessité absolue de se reconnecter et c'est un des outils modernes pour assurer la reconnexion entre les citoyens et les politiques que nous sommes.
Dans 2 heures, on est fixé. On saura si la pétition d'un premier temps et les amendements qu'on a mis sur Parlement et citoyens et qui ont été déposés vont être votés favorablement.
Monsieur le rapporteur, quel est votre avis ?
L'avis de la commission est favorable à un retrait. Sinon, défavorable. Parce que la commission n'a rien contre l'idée développée dans ses amendements, mais on est vraiment en train de s'éloigner doucement, mais on va bientôt arriver dans une loi d'orientation agricole ou une loi agricole. Il va nous manquer le ministre de l'Agriculture au banc. Mais puis-je terminer par un point qui est vraiment anecdotique, mais qui me paraît important. J'ai reçu des centaines de mails de Semons la biodiversité et plein d'autres collègues aussi. Si vous pouviez être nos interprètes auprès de ces gens qui, je le conçois, font valoir leurs arguments, et après tout, ils ont bien le droit en utilisant le mail, vous pouvez leur dire qu'ils envoient un mail en disant « ce mail est signé par 600 personnes ou 800 personnes, on gagnerait un temps infini chaque semaine pour perdre notre temps à supprimer cette inondation de mails ». Voilà. Merci.
Bien, Madame la Ministre.
Je mettrai un avis, le gouvernement émet un avis favorable à ces amendements, parce que pour avoir expérimenté aussi et subi les contrariétés vécues par les agriculteurs qui n'avaient pas la liberté d'utiliser chaque année un certain nombre de semences, ces amendements vont dans le bon sens, qu'ils sont attendus depuis longtemps pour étendre les droits d'échange de plants et de semences accordés jusqu'à présent au seul groupement d'intérêt économique et environnemental et pour qu'il soit utilisé librement par tous les agriculteurs.
Monsieur l'abbé souhaite reprendre la parole.
Oui, merci Madame la Ministre. Ce que je voulais répondre au rapporteur Jérôme Bignon en lui disant que lorsqu'une graine est semée dans une terre fertile et qu'elle s'apprête à germer, on ne la retire surtout pas.
Belle image du sénateur Joël Labbé. Pour finir, vous les avez énervés quand même avec vos mails. On entend le rapporteur, là, Jérôme Mignon, qui dit « Bon, sympa cette mobilisation citoyenne, mais bon, vous bombardez nos mois de mails, ça suffit. » J'imagine que ça vous a fait un peu grincer des dents, là, ça vous fait sourire quelques mois plus tard, mais Alexandre...
C'est la limite de la mobilisation, en fait, c'est qu'on est peu entendu, donc on se met en colère, on s'énerve. Là, on a envoyé, je pense, des dizaines de milliers de mails aux sénateurs pour qu'ils se positionnent. Je pense que ça les a énervés parce que, d'après eux, c'est pas leur rôle de passer leur journée à effacer ces mails, et je veux bien l'entendre. Mais voilà, en fait, nous, ce qu'on a testé, c'était un laboratoire, cette expérience, et on a voulu penser la démocratie participative, parce que c'est ça l'enjeu de cette interaction entre parlementaires et citoyens. Et là, on utilise le mail aujourd'hui parce que c'est bien pratique, et justement, ils n'étaient pas très contents.
Alors, résultat des délibérations au Sénat. Qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, les deux amendements passent. On est ravis à tel point que on tombe dans les bras l'un de l'autre. On pensait pas du tout que l'amendement qui allait changer les critères de stabilité sur les semences pour qu'elles soient reproductibles allait passer.
Vous aviez peur des lobbies, j'imagine.
On avait peur, ouais. Et on a eu peur à juste titre, en fait, parce que lorsqu'il a été voté cet amendement, on a sous-estimé les enjeux. Parce qu'il faut dire que dans cette loi biodiversité, il y avait plus de 900 amendements qui étaient votés. Donc il était impossible pour tous les sénateurs de connaître l'enjeu de chacune de ces lois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des commissions qui statuent entre l'Assemblée nationale et le Sénat et qui vont filtrer les amendements qui avaient été précédemment votés dans une chambre. Et là, les lobbies sont clairement rentrés dans la partie parce qu'on a eu une batterie d'amendements qui visaient simplement à supprimer les nôtres. Et donc c'est Aurélien à ce moment-là qui nous appelle, puisque Alex et moi, naïvement, on pensait qu'une fois que c'était voté, ça allait être ensuite...
Oui, parce qu'il faut expliquer quand même, Aurélien Vernet, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, on ne va pas passer 3 heures là-dessus, mais quand même le va-et-vient législatif pour une loi en France, c'est d'abord l'Assemblée nationale avec les députés, c'est modifié un peu au Sénat, et ça revient à l'Assemblée nationale pour être validé.
C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire, donc il peut y avoir 2 lectures dans chaque chambre. En théorie, la plupart des lois arrivent à avoir le même texte entre les deux chambres au bout de deux lectures. Si ce n'est pas le cas, on réunit une commission mixte paritaire avec 7 députés, 7 sénateurs, qui eux-mêmes sont chargés d'arrondir les angles et de trouver un texte commun. Et si on échoue, il y a encore une nouvelle lecture. Donc un texte peut passer 3 fois devant chaque chambre avant que l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Donc ça peut durer assez longtemps et c'est assez technique. Ouais.
Et là, donc, au bout du compte ?
Alors, au bout du compte, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est supprimé en commission, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est supprimé en commission à l'Assemblée, et il y a un seul des deux amendements qui est redéposé à l'Assemblée nationale et qui est voté avec le soutien de la secrétaire d'État à la biodiversité à l'époque, donc qui était Barbara Pompili. Et donc, le premier amendement, celui sur l'échange de semences entre agriculteurs, celui-là est voté et dans les mêmes termes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, donc celui-là est dans la loi, il ne peut plus être supprimé à partir de ce moment-là, même si la loi a encore quelques années. Retour à faire.
Bah c'est une belle victoire ça quand même, 1 sur 2.
C'est une victoire qu'on tempère en tout cas, voilà. Nous on est ravis parce que c'est vrai que notre message initial était justement de permettre aux agriculteurs de s'échanger toutes ces semences-là, mais on aurait aimé aussi que les semences soient naturellement reproductibles, qu'il n'y ait plus ce problème lié à la dépendance des agriculteurs auprès des semenciers.
En tout cas le débat a émergé, hein. D'ailleurs l'enseigne de grande distribution Carrefour vient d'annoncer qu'elle allait vendre dans une quarantaine de magasins des légumes issus de semences qui ne figurent pas au catalogue national, alors que bon, on peut pas dire que Carrefour soit vraiment réputé pour être tendre avec les agriculteurs. Comment vous avez pris ça? Coup de pub, réel investissement.
Pardon, mais dans cette campagne, en fait, les agriculteurs ont toujours pu vendre en fait les légumes issus des semences. Et là, c'est une vraie confusion. Je l'avoue, c'est compliqué en fait. Ce sont que sur le marché des semences qu'on n'a pas le droit de vendre les semences traditionnelles. Et donc Carrefour, je pense qu'il découvre que au sein de la population, il y a vraiment cet engagement. Ce changement, une vraie transition qui s'engage, et donc je pense qu'ils surfent un petit peu, et moi je trouve que je les salue, hein, parce qu'ils utilisent exactement la même technique que nous, ils veulent lancer une pétition et changer la loi, donc je les remercie en tout cas de populariser notre démarche, parce qu'on trouve que c'est une bonne manière de faire les choses.
Jonathan ?
Moi j'irai un peu plus loin, c'est vrai que bah, c'est super parce que ça nous permet de médiatiser un problème peu connu au sujet des semences, et je leur demanderai en fait qu'ils puissent assurer un salaire réellement permettant aux paysans de subvenir à leurs besoins.
Parce vous voulez dire un grand distributeur qui paye dignement les producteurs?
Exactement, oui, parce que le gros problème c'est les marges qui sont appliquées, qui prennent à la gorge tous les agriculteurs. Donc je trouve ça exceptionnel qu'on s'intéresse à ces légumes anciens, traditionnels, mais qu'on s'intéresse aussi à ceux qui les produisent, à ces paysans, et qu'on leur permette de vivre dignement.
Un peu de cohérence jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que donc ça y est, votre documentaire est mis en salle dans une centaine de salles en France, je crois. D'ailleurs, vous faites un tour de France.
En vérité,
une vingtaine.
Je me disais peut-être que ça va amener d'autres salles.
Bon. Je sais pas, j'ai lu une centaine, moi. Bon, bah voilà, j'aimerais que ce soit une centaine, on va dire. Bref, vous faites un tour de France et à la fin de la projection, vous ne parlez pas uniquement semences. Rapidement, qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent voir votre documentaire?
Alors, en fait, on comprend bien dans le film qu'il n'y a pas de loi qui permet de réguler le droit de pétition. Donc, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est ce qu'on appelle un droit d'amendement citoyen. C'est ce dont parle Olivier Faure dans le film. Ce droit d'amendement citoyen, il permettrait à chacun de pouvoir écrire des articles de loi qui seraient ensuite votés par le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on n'a pas ce droit-là. Il n'y a que les parlementaires qui en disposent. Et donc, vu que nous, ça a été très compliqué pour en parvenir jusqu'au vote, on aimerait faciliter cette démarche parce qu'on est sûr qu'il y a plein de citoyens qui ont envie de s'impliquer là-dedans, qui en sont en plus tout à fait capables. Et voilà.
Mais si tous les citoyens commencent à déposer des projets de loi ou des amendements à des projets de loi, ça va devenir très très compliqué à gérer.
Oui et non, parce qu'on peut imaginer, alors, de deux choses l'une, je ne suis pas sûr qu'on se transforme du jour au lendemain en 65 millions de législateurs, quand bien même on le serait, je pense qu'à un moment, il y a une espèce d'intérêt général qui va prévaloir naturellement, et il n'y a aucune méfiance à avoir là-dessus. Quand on voit le nombre d'amendements qui sont votés dans une loi comme celle sur la biodiversité, je ne pense pas qu'une dizaine d'amendements supplémentaires dans celle-ci auraient réellement alourdi le projet de loi. D'autant plus que si lorsqu'un droit d'amendement citoyen sera créé, il y aura une commission citoyenne qui filtrera les propositions faites par les gens qui les auront mises sur une plateforme.
Aurélien Vernet, vous pensez que c'est quelque chose d'envisageable à moyen terme ?
Oui, même à un terme relativement court, si on arrive à convaincre le Sénat, par exemple, puisque à chaque fois que le Sénat se renouvelle, donc tous les 3 ans, par moitié, on peut modifier le règlement du Sénat.
Et donc, mais là, ça vient d'avoir lieu.
Oui, mais donc il y a ce qu'on appelle des propositions de résolution visant à modifier le règlement du Sénat, donc ce qu'on va déposer, et on va proposer une procédure qui ressemble à ce que dit John, à savoir... Il y a des plateformes qui existent aujourd'hui, celles de Parlement et Citoyens, mais le Sénat peut très bien en élaborer une pour elle-même, qui permettrait aux citoyens de déposer leurs propositions, à d'autres citoyens de venir les commenter, argumenter, contre-argumenter, etc. Et puis ensuite de créer un rapporteur citoyen, donc qui serait chargé d'examiner tous les sujets que les citoyens ont mis en débat sur une proposition de loi ou un projet de loi, et puis lui-même d'aller présenter ses propositions en commission. Et donc il y aurait un deuxième rapporteur finalement, il y aurait le rapporteur de la commission qui est chargé du texte, et puis un rapporteur citoyen qui lui devrait examiner et débattre et aider ses collègues à mieux comprendre les propositions des citoyens.
Et ça, c'est une proposition que vous allez faire
C'est une proposition qu'on va faire dans les semaines qui arrivent.
Ouais. Avec Joël Labbé, donc sénateur du Morbihan, qui va porter ce projet et une pétition, donc pareil, hein, pour avoir l'engouement derrière vous, Alexandre.
Voilà, la boucle est bouclée, on revient à la pétition.
Malgré
parce
tout.
Parce que ça permet de médiatiser la question. Donc sur notre plateforme mesopinions.com, la pétition s'appelle « Vers un droit d'amendement citoyen ». Et donc là, on essaye de récolter le plus de signatures pour expliquer, faire de la pédagogie, parce que c'est ça finalement. Nous, notre boulot, c'est de faire de l'éducation populaire. Nous, on fait beaucoup de ciné-échanges avec ce film, et c'est pour faire un grand lobby citoyen et expliquer en fait aux citoyens qui peuvent devenir législateurs qu'il manque très peu de choses. Il faut en tout cas changer les règles du jeu, mais que après, ils devront aussi s'éduquer par eux-mêmes pour pouvoir assurer et faire des propositions à la hauteur.
Et voilà pourquoi il faut que votre documentaire soit projeté dans au moins une centaine de salles. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.